Bonjour à tous, frères et sœurs. Voilà, toujours une joie de nous retrouver, comme on l'a chanté. C'est auprès de Dieu qu'on voudra nous tenir, écouter le son de sa voix. Alors, avant de lire quelques portions des Écritures, je voudrais vous inviter à la prière. Nous poursuivons notre série d'études sur les 9 échanges sur la base des années 53. Nous sommes arrivés au 8e échange, l'acceptation à la place du rejet. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, tu nous fais ce privilège d'être là. D'être là, comme nous l'avons chanté, dans ta présence. En effet, c'est dans ta présence que nous nous sentons le mieux. Nous sommes venus écouter ta parole. Nous sommes venus pour que tu nous parles, que tu nous libères, que tu nous affranchisses de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant avec toi. Ta parole a cette capacité. Ta parole a cette puissance de libérer. Et il envoya sa parole et il les guérit. Seigneur, merci encore de nous faire entendre ta voix ce matin, à travers l'écoute de ta parole. Que ton esprit prenne autorité sur tout esprit qui voudrait s'opposer à la manifestation de ta gloire en ces lieux. Au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit nous rejoigne au-dedans de nous, nous parle alors que nous serons en train d'écouter ta parole. Bénis l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quelques lectures. Vous invite à, pour ceux qui le peuvent, en tout cas, de se lever. On a déjà entendu le psaume 22, justement. On va le relire. Les trois premiers versets. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Soulignez le mot abandonné. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et vous voyez que Jésus va reprendre ses paroles, en tout cas, étant à la croix. L'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 15, au verset 34, Jésus à la croix, parmi les 7 paroles qu'il a sorties de sa bouche, vous avez cette parole qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il faisait allusion, il avait tiré justement ce verset, ce passage, en tout cas ses propos dans ce psaume 22 qui est un psaume prophétique. Il parle de son abandon. Et le psaume 22 nous éclaire parce que il est dit « Pourtant tu es le Saint ». Il s'adresse à Dieu. Il a été abandonné par le Dieu Saint. Mais pourquoi il a été abandonné par le Dieu Saint? Nous avons la réponse, c'est au sujet de nos péchés. Nos péchés ont fait que Dieu le Père a abandonné son Fils. Alors, dernier verset, enfin, dernier passage, c'est Ésaïe 53, à partir du verset 3, que nous avons déjà lu plusieurs fois, le prophète Ésaïe parle, il dit « Méprisé et abandonné des hommes ». Un psaume prophétique qui s'adressait aussi à notre Seigneur. « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, ainsi de suite. » Jusqu'ici donc, frères et sœurs, la lecture de la parole de Dieu, merci de prendre place dans sa sainte présence. Donc je disais que ce matin, nous parlerons du rejet, le fait que nous avons été acceptés par Dieu, alors que le Christ qui avait pris notre place, lui, a été rejeté. L'acceptation à la place du rejet. Alors, pour le dire simplement, pour le dire de façon simple, le rejet est, je parlais dimanche dernier, dimanche d'avant, au sujet de la honte aussi, qui est une sensation, qui est un sentiment émotionnel, il en est de même pour le rejet. Le rejet est le sentiment de ne pas être désiré, de n'être aimé de personne malgré un profond désir de le vouloir, malgré un profond désir de l'être. Ou bien, il s'agit du désir de faire partie d'un groupe, mais de s'en être exclu, en ayant évidemment toujours l'impression, comme on le dit, de rester sur le banc de touche, comme si la vie était un match de foot où on a besoin des titulaires, voilà, qui sont sur le terrain, et ce qu'on appelle des remplaçants, donc qui sont sur le banc de touche. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens souffrent justement aujourd'hui du rejet est liée, voyez-vous, à la structure de notre société. Notre société et les pressions aussi qu'elle exerce. La société, en particulier la rupture dans la vie familiale. Tout se passe là, dans les familles. Alors, le contraire du rejet est l'acceptation, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, à la croix, Christ a été justement rejeté afin que nous soyons acceptés par le Père. Plusieurs fois, vous voyez, dans votre vie, bien-aimé, vous serez rejeté. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissé. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez sali justement par les gens ou par les événements. Vous voyez, vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien, plus rien. Mais en réalité, votre valeur, voyez-vous, reste la même. Votre valeur reste la même. La valeur d'une personne, frères et sœurs, ne tient pas compte de ce qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas. Une histoire, voyez-vous, un billet de 500 euros. Si je prends un billet de 500 euros, je me mets à le froisser, à le jeter par terre. Et si je le récupère, je vous pose la question, qui en a besoin? Qui en veut? Je suis sûr qu'il y en a qui disent, oui, moi j'en veux. Et si je le froisse, même si je le mouille, voyez, et si je lève ce même billet en disant, mais est-ce que quelqu'un en veut dans la salle? Je suis sûr qu'il y en a qui disent, oui, moi j'en veux. Oui, frères et sœurs, peu importe ce que vous allez faire, la valeur de ce billet ne changera pas. Ne changera pas. Et c'est ce que nous sommes. On peut vous froisser, on peut vous salir, mais votre valeur devant Dieu reste la même. Vous voyez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David. Les gens ont fait de lui, entre guillemets, un petit berger. C'est une forme de rejet. Bon, toi, tu t'occupes de, voilà, des moutons, ainsi de suite. Mais voyez que cela n'a pas dérangé du tout Dieu qui avait un projet pour lui. De sorte qu'il a fini par devenir l'un des plus illustres rois d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu, même si tu es né dans une famille pauvre, même si tes parents ne t'ont pas désiré au point où tu t'es senti rejeté, sache que tu n'es pas venu au monde pour une personne, que tu n'es pas venu au monde, ni moi encore pour ton père, ni pour ta mère. Tu es venu au monde pour Dieu. Dieu a fait un placement, comme on place son argent quelque part. Dieu a fait un placement pour que tu viennes au monde. Oui. Et ça, c'est ce qui donne de la valeur à ta personne. Lorsque l'on a compris cela, voyez, on ne se laisse plus gagner par le découragement par rapport à ce qu'on ressent des autres. On ne se laisse plus gagner par le découragement. Vous êtes une créature de Dieu et votre identité vient de Dieu lui-même. Vient de Dieu et personne ne peut vous l'arracher. Dans l'évangile de Marc, on l'a lu tout à l'heure, Jésus s'est crié, dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, le serviteur souffrant a été rejeté par les hommes. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, dans ce qu'on appelle le prologue de Jean, Jean dit au sujet de Jésus qu'il est venu chez les siens, et les siens ont fait quoi? Les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 11. C'est un rejet. Les siens ne l'ont pas reçu. D'ailleurs, ses propres frères, la Bible dit les enfants de sa mère l'ont rejeté. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère, dit le psaume 69. On l'avait lu il y a quelques temps, psaume 69, au verset 9. Remarquez que cela se réfère au fils de sa mère. Au fils de sa mère, je fais une parenthèse, et non pas au fils de son père. Plusieurs prophètes messianiques parlent de la mère du Messie et pas de son père Joseph, entre guillemets son père nourricier. La conception et la naissance du Messie étaient donc, voyez-vous, bien entendu, unique Joseph et n'y avait pris aucune part. On parle des enfants de sa mère. Bien-aimés, tous ceux qui expérimentent ce genre de rejet ont besoin de réaliser que Jésus, le Christ, lui-même l'a aussi expérimenté, le rejet. Il a été rejeté par sa propre famille et par son propre peuple. Mais le plus dur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le plus dur, c'est qu'il a aussi été rejeté par son Père céleste. Et c'était là l'ultime rejet. Parce qu'il a été fait péché de notre nature pécheresse. Et Dieu devait le traiter comme il a traité le péché. Dieu devait le rejeter, refuser de l'accepter. Il est mort, frères et sœurs, pas seulement de la crucifixion, mais aussi, voyez-vous, à cause de ce rejet, d'un cœur brisé, brisé, notre Seigneur. Dans Ésaïe 54, je dis bien 54 au verset 6, la Bible nous donne une image du rejet. 54, 6, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de ta jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. L'image donnée ici, frères et sœurs, est très poignante. Il s'agit, voyez-vous, d'une jeune femme mariée depuis peu qui se rend compte que son mari ne l'aime pas vraiment. Alors peut-être qu'il n'a pas le temps, voyez-vous, à lui accorder et ne démontre en quelque sorte aucun intérêt à son égard. Il est même possible d'ailleurs qu'il soit en train de se préparer à divorcer d'avec elle pour en trouver une autre. La parole l'a décrit comme étant délaissée et au cœur attristé. Frères et sœurs, il existe un type de blessure qu'il est très difficile de supporter. Il est décrit de manière assez précise en Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit abattu. Donc cette femme, Ésaïe 54, 6, souffrait visiblement d'une blessure similaire dans son esprit. Nous pouvons nous aussi endurer les meurtrissures du corps, mais un esprit meurtri est une affliction presque insupportable. L'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 11, je cite, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est au-dedans de lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, l'esprit d'une personne, voyez, nous dit ce verset, est plus profond que, je dirais, sa compréhension, sa connaissance intellectuelle, l'esprit de l'homme. Est plus profond que ses facultés de mémoire et de raisonnement, l'esprit de l'homme. Et c'est cet esprit qui est la seule chose qui vous connaissent à fond, votre esprit, la seule chose capable de vous connaître à fond. Votre conscience ne vous connaît pas en profondeur. Il y a même des choses en vous qu'elle n'a pas encore découvertes, votre conscience. Voilà pourquoi il est possible de porter des blessures pendant des années. Je dis bien pendant des années, sans jamais en être conscient au niveau de la pensée. Cela nécessite, vous comprenez bien, l'intervention donc du Saint-Esprit dans votre esprit. Le Saint-Esprit dans votre esprit pour une guérison. C'est lorsque le Saint-Esprit a atteint l'esprit de la personne que tous les nœuds qui étaient restés justement serrés dans l'esprit de cette personne, pendant si longtemps, tous ces nœuds sont défaits. Aucun autre que le Saint-Esprit, frères et sœurs, ne pourrait jamais atteindre cette profondeur pour défaire un nœud. Il y a donc un endroit tout au fond de nous que notre conscience ne connaît pas. Parfois, elle refuse même de faire face aux événements qui ont suscité un état tout au fond de nous. D'ailleurs, les psychologues et les psychiatres reconnaissent le fait que certaines blessures sont si douloureuses que la conscience refuse de les aborder. La conscience refuse. Elle leur jette, comme on dit, un regard, mais vraiment un regard aveugle. Cependant, la blessure est là, au-delà de la conscience, de la raison, et même au-delà de la mémoire. Elle se trouve dans l'esprit. Le rejet dont il s'agit, frères et sœurs, se situe très fréquemment justement dans cette zone de l'esprit, la zone la plus profonde. Et souvent, il est enfoui. Donc, si profondément que les personnes ne réalisent pas qu'elles ont un problème de rejet. De sorte qu'un bébé, vous voyez, un bébé peut être rejeté avant sa naissance, un bébé. Si une femme porte dans son sein un enfant dont elle accepte mal la venue, mais cet enfant naîtra justement avec ce qu'on appelle un esprit de rejet. Imaginez, frères et sœurs, une famille où il y a déjà des dizaines de bouches à nourrir et la pensée justement qu'une autre petite vie allait venir dans leur monde. Vous voyez, cela peut être de nature à produire un sentiment d'amertume. Pourquoi devrions-nous avoir un autre enfant? Pourquoi? Un problème similaire aussi peut se développer chez un enfant qui vient au monde alors que la maman souhaitait un avortement. Cet enfant aussi peut naître avec ce que j'ai appelé un esprit de rejet. D'où un enfant peut naître et, voyez-vous, ne pas recevoir l'amour et ainsi souffrir du rejet. Alors que chaque enfant évidemment qui vient au monde, cherche en réalité l'amour d'un père et d'une mère. Chaque enfant est créé justement de cette façon, de cette manière. Mais dans plusieurs cas, voyez-vous, l'enfant peut ne pas être aimé. Ou bien même si l'enfant est aimé, voyez, les parents peuvent ne pas, là aussi, lui exprimer cet amour. Il faut le faire. Vous avez déjà entendu des témoignages du genre « Je suppose que, voyez-vous, mon père m'aimait, mais il n'a jamais su me le montrer. » Vous voyez, tout au long de sa vie, il ne m'a jamais pris sur ses genoux, il n'a rien fait qui m'aurait prouvé son amour. Cela peut aussi être le cas pour une mère. Vous voyez, le résultat est que l'enfant éprouve le sentiment de ne pas être désiré. Frères et sœurs, le rejet peut aussi arriver plus tard dans la vie, comme pour une femme, pour cette femme dont parle Ésaïe, une épouse peut aimer son mari et avoir une idée préconçue du mariage. Elle imagine combien son mari va l'aimer et combien elle sera bénie avec des enfants, mais d'une quelconque manière, il en va autrement. Peut-être son mari l'aime-t-il pour un temps, mais ensuite, il s'intéresse à une autre femme. Ou bien, il peut être l'un de ces hommes qui ne savent pas extérioriser leur amour. Après un certain temps, le sentiment, voyez-vous, de cette femme peut être « Mon mari, quelque part, ne veut pas de moi. Il ne s'intéresse pas à moi. Il ne me consacre pas du temps. » Vous voyez, le rejet, frères et sœurs, peut être simplement aussi une attitude intérieure. Intérieure qui, en tout cas, nous suit partout où nous allons. Attitude intérieure. Ce qui confirme le fait que derrière une émotion, voyez-vous, une réaction ou une attitude négative se trouve souvent l'esprit correspondant. J'ai parlé tout à l'heure de l'esprit de rejet, mais derrière la crainte, il y a un esprit de crainte. Derrière l'envie, il y a un esprit d'envie, derrière la haine, justement, mais il y a un esprit de haine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Très souvent, le fait de céder à une certaine émotion va ouvrir la porte à l'esprit qui y correspond. Et une fois qu'il est entré, la personne ne le contrôle plus totalement. Par exemple, une fille qui déteste son père parce qu'il a été cruel, critique et sans amour, mais peut se marier par la suite et avoir des enfants. Puis, sans raison et malgré elle, elle commence à détester l'un de ses enfants de manière vicieuse et irraisonnée. Vous voyez, il fait en quelque sorte un transfert. Il transfère la haine pour son père sur son enfant. Et ça, c'est l'esprit de haine, justement, comment ça fonctionne. Puisque le père est absent, la haine, voyez-vous, se reporte sur quelqu'un d'autre. Souvent, les parents ont un défaut, les parents qui ont un défaut particulier vont détester l'enfant qui leur ressemble le plus. Ce qu'ils haïssent en réalité, c'est leur défaut en eux. Mais au lieu de tourner leur haine contre eux-mêmes, ils la retournent contre l'enfant, justement, qui reproduit les traits ou les faiblesses qu'il a hérité d'eux. Tout comme il existe un esprit de haine, frères et sœurs, il existe aussi un esprit de rejet. Le rejet est le problème qui entraîne, qui entraîne d'autres problèmes par la suite. On peut distinguer deux lignes de réaction, en tout cas différentes, découlant du rejet. Pour la première, en tout cas sur la première ligne, vous voyez, le rejet, sur la première ligne se situe la solitude. La solitude, frères et sœurs, est une chose terrible. Voyez-vous que notre monde, justement, est rempli de personnes de plus en plus seules. La solitude mène ensuite à l'abattement. Puis l'abattement et la solitude vont entraîner ce qu'on appelle la pitié de soi. Vous vous sentez toujours navré pour vous-même. Personne ne me comprend. D'autres y arrivent, mais moi je n'y arrive pas. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ainsi? L'étape suivante est souvent la dépression. Une humeur, en quelque sorte, morose qui s'installe en vous. La dépression mènera ensuite vraisemblablement vers quelque chose encore de plus sérieux comme le désespoir, le découragement. Non, ça ne va pas. Je ferais mieux de laisser tomber. Voyez-vous, plus, puis le désespoir mènera presque inévitablement à un ou deux résultats qui seront définis. En tout cas, l'un c'est, voyez-vous, c'est la mort le plus souvent, et l'autre c'est le suicide. Vous voyez, il faut faire la différence entre la mort et le suicide. La mort, justement, est, voyez-vous, le désir de mourir. On ne veut plus de la vie. Si jamais vous avez dit, mais j'aimerais être mort, mais c'est une chose très dangereuse, voyez-vous. Hein? Vous n'avez pas besoin de le dire souvent qu'un esprit justement de mort s'introduise en vous. L'esprit de mort. Le suicide est lui un peu plus radical. Vous voyez, quelqu'un qui dit « mais tu ferais mieux d'en finir, hein? À quoi bon vivre ?» Ben, prends la boîte de médicaments, je ne sais pas quoi, avale-les maintenant, ou bien, allez, vas-y, saute devant un train et finis-en, quoi. Vous voyez là, frères et sœurs, il s'agit des réactions qui découlent du rejet. C'est toute une chaîne, mais il y en a une autre de possible qui mène dans une autre direction. En tout cas, la première étape de cette progression issue du rejet, c'est l'endurcissement. L'endurcissement, bon, s'il ne m'aime pas, si tout le monde ne m'aime pas, mais qu'importe. De toute façon, qui a besoin d'eux? Je n'ai pas besoin d'eux. Je peux m'en sortir seul, sans personne, sans eux. Puis, vous voyez, l'endurcissement mène à complètement l'indifférence. En tout cas, je m'en fiche. Voyez-vous, je m'en fiche. J'ai été assez blessé. Voyez-vous, plus personne ne me blessera autant. En tout cas, je vais mettre une barrière que personne ne pourra jamais franchir. Voyez-vous, donc, extérieurement, vous êtes amical. Vous parlez aux gens, vous blaguez, vous souriez, vous faites tout. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'arriverez jamais à atteindre. À l'indifférence succède enfin la rébellion. Bon, voilà, ils sont contre moi, je vais donc être contre eux tous aussi. Je les déteste de toute façon, je hais, j'ai de la haine pour leur religion, j'ai de la haine pour leur église, j'ai la haine pour leur Dieu. Vous voyez, vous avez déjà entendu des phrases du genre « Dieu, je te déteste ». C'est une chose terrible à dire. Certaines personnes disent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait de cette façon? Pourquoi donc m'as-tu fait venir au monde ?» ainsi de suite. Vous voyez, Ésaïe 53 nous enseigne, frères et sœurs, que l'Évangile, la parole de Dieu, l'Évangile offre, voyez, des solutions radicales à ce genre de problèmes radicaux. Des solutions radicales, mais parce qu'il est lui-même, l'Évangile, très, très, très radical. Vous voyez, le sens même du mot radical vient d'un mot latin qui signifie la racine. La racine, oui. Par conséquent, ce qui est radical, c'est ce qui va jusqu'à la racine, oui. Dans ce sens, par exemple, l'Évangile est radical. Il va jusqu'à la racine du problème. La parole de Dieu, c'est ce que dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, au verset 10, il fait une description. Il dit ceci, il dit, voyez, il dit, « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. » Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et il dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera quoi? Coupé et jeté au feu. Vous voyez, c'est une belle image de la manière dont Dieu cherche à traiter nos problèmes, tous les problèmes, en tout cas, qui sont représentés. Vous voyez, nos problèmes sont représentés par les arbres. Nos problèmes représentés par les arbres. Dieu dit, il n'est pas suffisant en quelque sorte de couper quelques branches. Vous voyez, c'est ça. L'arbre sera toujours là à continuer de croître. Même si vous coupez les branches, vous coupez le tronc, la vie y restera et des petits bourgeons verts apparaîtront bientôt. Mais si vous le coupez jusqu'à la racine, en tout cas, vous en aurez fini avec l'arbre. Et c'est ça, le problème sont des arbres. Il faut en finir à la racine. Dans le plan de Dieu, la cognée va jusqu'à la racine du problème des gens. Vous voyez, je fais là une illustration de trois parties, des trois parties de l'arbre. Les trois parties qui correspondent Alors, oui, un arbre a trois parties, mais ces trois parties, voyez-vous, correspondent aussi au problème que nous avons, au problème des gens. Trois parties. Les branches, en quelque sorte, représentent les péchés. Les branches représentent les péchés. Les choses comme le mensonge, les choses comme les gros mots, l'immoralité, les addictions, ainsi de suite, en tout cas, les péchés. Vous voyez ? Les péchés, les branches. L'activité religieuse, le fait de venir à l'église, de servir, tout ce qui est activité religieuse vise principalement à faire quoi ? Si on est franc, sincère devant le Seigneur, mais vise à couper quelques branches. Vous voyez, on entend souvent, bon, j'ai arrêté de fumer, ou bien j'ai arrêté d'être immoral, ou encore je ne fais plus jamais de mal à personne, et je viens à l'église tous les dimanches, je sers le Seigneur. Voilà. Tout cela est bon et bien, mais, vous voyez, on ne va pas au fond des choses, on ne va pas à la racine, tout. Justement, faites encore. Si vous vous contentez de couper les branches, en éliminant certains péchés, le problème inévitable que vous affronterez sera d'autres branches. D'autres branches prendront leur place, mais parce qu'elles sont toutes tenues et alimentées par le tronc qui est encore en place et les racines. Et le tronc, justement, dont il est question, correspond à une autre réalité qui est le péché. Je ne dis pas les péchés, mais le péché. Vous voyez ? Le péché. La Bible fait bien une différence entre les péchés d'un côté et le péché de l'autre. Les actes pécheurs, ce sont les péchés, et le péché, c'est la cause. La cause, justement, de tous les péchés. En ce sens que le péché, c'est une puissance spirituelle mauvaise qui vous pousse, qui est corrompue, qui pousse l'homme, justement, à commettre des péchés. Dans l'expiation, Jésus, voilà, il est dit quoi ? Ésaïe 53. Il est dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Au pluriel. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Au pluriel. Il s'agit des actes que nous commettons. Voyez-vous ? Et au verset 10 d'Ésaïe 53, il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Voyez, la réalité spirituelle mauvaise qui nous pousse au péché. Donc il s'agit là du tronc. Et la Bible entretient cette différence systématique. Le péché et les péchés, voyez, donc les branches et le tronc se situent à la surface. À la surface. Mais voyez, branche, tronc, et sous la surface, il y a autre chose. Et il s'agit là, je disais, des racines. Les racines. Les racines peuvent être décrites comme, voyez-vous, le moi, notre ego, le je. Voyez-vous, moi je veux, moi je pense, moi j'aime, je n'aime pas, regardez-moi, en tout cas je suis important, il s'agit de moi. Voyez, toutes ces choses, le monde tourne autour de moi. Voyez-vous, frères et sœurs, il s'agit là de la racine. Même ceux qui ont affronté leur péché n'ont pas toujours traité le problème du moi. Cependant, si la racine n'est pas traitée, le problème persiste. La solution de Dieu, je disais, à chacun de nos problèmes découle de la croix. De la croix. La croix représente l'endroit où Dieu a procuré la solution la plus radicale à tous les problèmes. Et c'est là qu'il a traité ce problème spécifique du rejet, à la croix, le rejet. Le contraire du rejet, je l'ai dit, c'est l'acceptation. Il y a une version anglaise de la Bible qui dit, selon Éphésiens 1:6, voyez-vous, que Dieu nous a acceptés dans le bien-aimé. Dieu en Jésus nous a acceptés. Jésus, le véritable et unique Fils de Dieu, a été rejeté afin que nous, rebelles, sans valeur, puissions jouir de l'acceptation auprès du Père. Ainsi, frères et sœurs, le remède le plus profond à nos problèmes est de croire que Jésus a porté notre rejet afin que nous revêtions son acceptation auprès du Père. voyez, parfois, bien aimé, il y a des problèmes avec des parents terrestres qui ne peuvent jamais être résolus. Cela peut arriver, cependant, mes amis, peu importe si personne ne vous a désiré ni aimé lorsque vous venez à Dieu par Jésus-Christ, voyez, vous devenez quoi ? Membre de la famille de Dieu, la meilleure famille de l'univers. Et Dieu, justement, n'a pas d'enfant de, je dirais, de seconde classe. Dieu n'a pas d'enfant de second rang. Jésus-Christ a subi mon rejet pour que je puisse être accepté au ciel, justement, qui est devenu ma maison familiale, le ciel. La famille de Dieu, frères et sœurs, est la meilleure des familles. Aucune famille ne peut l'égaler. Même si votre famille n'a pas pris soin de vous, si votre propre père vous a rejeté, ou si votre mère, justement, n'a jamais eu du temps pour vous, ou si votre mari ne vous a jamais montré d'amour, Dieu veut de vous, malgré tout. Dieu veut de vous. Vous êtes accepté. Vous êtes l'objet de son attention et de son affection. Vous êtes en sécurité dans son amour sans condition. Tout ce qu'il fait dans l'univers, frères et sœurs, tourne autour de vous. Il vous a placé dans ce monde pour lui. Pour lui. Et notre valeur vient de lui, pas de ce que les hommes disent de nous. Merci Seigneur pour ton amour merveilleux. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu formidable. Tu savais qu'en venant au monde, on allait être confronté à ces différents problèmes de rejet, de non-acceptation ici et là, dans nos familles, dans la société. Et tu avais déjà pourvu à la réponse. Tu avais déjà pourvu à la solution. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que cette solution maintenant devienne la nôtre. Nous voulons nous en approprier de sorte que le rejet ne soit plus notre lot, que le rejet ne soit plus le partage de mon père, de ma sœur, que nous ne puissions plus sentir, en tout cas avoir en nous ce sentiment de rejet, mais que nous puissions réaliser que nous sommes véritablement acceptés de notre Dieu qui est devenu notre Père en Jésus-Christ, que nous appartenons à la grande famille des enfants de Dieu et que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, sans condition, et c'est lui qui nous donne la vie pour l'éternité. Que son nom soit béni. Amen. Amen.